15h49, vous le savez, il y a une commission d'enquête présentement là, présidée par l'ancienne présidente de la Fédération des infirmières, Régine Laurent, qui explore là le fonctionnement de la DPJ. C'est dans la foulée de la tragédie de cet enfant de Granby là, qui avait déjà été sous la supervision de la DPJ et qui est décédé dans des circonstances troublantes. Et depuis hier, il y a d'anciens enfants de la DPJ qui témoignent et qui racontent leur expérience. Une de ses ex-enfants de la DPJ a aujourd'hui 32 ans. Elle s'appelle Émilie Roy. Elle est au bout du fil. Bonjour, Mme Roy.
Bonjour, M. Lagacé.
Mme Roy, vous êtes membre du comité de l'étude sur le devenir des jeunes placés vous êtes allée témoigner en tant que membre de ce groupe-là. Qu'est-ce que vous avez dit aux gens de la commission de Régine Laurent?
Ben en fait, lors de notre présentation, excusez-moi, à la commission, c'est sûr qu'on avait, on était quand même 9. Donc on a 6 personnes qui ont fait un témoignage de vie. Moi et 3 personnes, nous avons fait des recommandations. Donc le but de notre présentation, en fait, c'était surtout d'aller démontrer autant le positif que le négatif des ressources. Personnellement, moi, ce que j'avais surtout à révéler, c'était au niveau des procédures en isolement, aussi au niveau des médicaments et des diagnostics. À travers la DPJ, mais il y a eu également là, divers témoignages qui ont été fournis.
OK. Donc, vous, on va s'attarder un peu à ça, l'isolement en centre jeunesse, hein, j'imagine?
Oui, oui.
OK. Et vous avez brandi vos clés. Vous avez brandi un trousseau de clés. Il y a quelque chose de symbolique dans votre histoire d'enfant de la DPJ qui a rapport avec les clés. Racontez-nous ça.
En fait, c'est que l'isolement, je l'ai vécu souvent à répétition et de manière prolongée. En fait, je dirais plutôt de manière régulière. En fait, mon plan d'intervention stipulait que dès que j'avais une crise, soit tumultuaire ou une crise d'agressivité, on me mettait en isolement 48 heures. Donc, dans un isolement, je vous fais visualiser la pièce, une pièce de 6 pieds par 6 pieds environ, entièrement, les murs entièrement capitonnés. Il y a une porte dont la poignée est à l'extérieur, bien sûr, barrée. Et la seule vue sur l'extérieur est un petit fenêtre qui souvent est recouverte, là, en fait, au trois quarts du temps d'un petit tissu, mais qui est tassé, là, par l'agent d'intervention pour vérifier. Et justement, là, chaque fois que l'agent d'intervention vient vérifier ou que les agents d'intervention passent, la seule chose qu'on entend, c'est les clés. Alors, le tintement des clés, c'est le seul bruit qu'on entend en isolement. Et chez moi, ça a créé un effet de choc post-traumatique. Donc, d'avoir un trousseau de clés qui teinte sur moi me donne le pouvoir d'ouvrir les portes, me donne l'impression d'être en contrôle sur ma vie, en fait. C'est vraiment, là, les gens me disaient souvent, ben, retire-le, ça fait du bruit, ça dérange. Non, je n'ai besoin. Tu sais, c'est vraiment, ça me rassure, un peu comme un enfant va avoir un doudou, en fait.
Fait que votre trousseau de clés aujourd'hui, c'est votre doudou. Parce que ça vous rappelle qu'à l'époque, le bruit du trousseau de clés, ça voulait dire que vous étiez enfermé.
C'est ça. Mais aujourd'hui, de les avoir sur moi et de les entendre, c'est que là, je peux les ouvrir moi-même les portes.
Je me trompe ou c'est une forme de torture d'envoyer des personnes en isolement?
En fait, il y a deux définitions. Pour ce qui est de l'isolement, c'est permis d'utiliser un isolement à titre préventif. Donc, une personne qui a des idées suicidaires, une personne qui est à risque suicidaire, peut être mise en isolement à titre préventif jusqu'à une évaluation, disons, où est-ce que là, on va juger si la personne, oui ou non, est dangereuse pour elle-même ou autrui. À ce niveau-là, c'est pas considéré comme étant une torture. Okay. Par contre, selon l'ONU, lorsque l'isolement est utilisé à titre punitif, là, c'est considéré comme une torture envers l'homme. Donc, le plan d'intervention que j'avais, qui stipulait que dès qu'il y avait une crise ou une auto-mutilation, je devais passer 48 heures en isolement, selon l'ONU, est considéré comme étant une torture.
On parle de quelle année où on vous faisait ça?
Entre 2000 et 2004.
OK. Est-ce que vous savez si ça se fait encore?
L'utilisation de l'isolement, il y a eu quand même quelques réformes. Maintenant, il y a une plus grande sensibilisation, excusez, auprès des intervenants sur l'utilisation. Mais malheureusement, l'isolement sont encore utilisés de manière abusive et punitive. Okay. Elle est utilisée de manière préventive et ça, c'est correct. Je veux dire, un jeune qui menace vraiment de se suicider, c'est normal qu'on va le retirer d'une chambre où est-ce qu'il peut y avoir des objets et tout. Je veux dire, il faut protéger la personne. Mais dès que le jeune a besoin de s'exprimer et qu'il crie fort et qu'on l'envoie en isolement, non, il n'y a aucune raison. Donc, il y a comme encore une utilisation des isolements qui est abusive.
OK. Émilie Roy, vous êtes une ancienne enfant de la DPJ. Qu'est-ce qui est urgent dans les changements que la DPJ doit opérer?
En fait, dans les plus faciles à mettre en place, ce serait d'instaurer un office des jeunes suivis par la DPJ ou des comités aviseurs de jeunes. Donc, un peu l'office dans le principe des personnes handicapées du Québec. Mm-hmm. Donc, de s'assurer des travaux de recherche, la participation des jeunes, conseiller le gouvernement, les ministères sur les protocoles et politiques, surtout s'assurer du respect des droits des jeunes à la DPJ. Puis les comités aviseurs composés de jeunes impliqueraient les jeunes plus dans le processus, mais sans nécessairement être totalement personnel, mais également au niveau de l'entièreté là, du processus de la DPJ. Puis nous, ce qu'on souhaite, en fait, c'est vraiment que les services soient offerts sur volontariat jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, parce qu'un enfant aujourd'hui, selon des études, quitte rarement le domaine familial avant l'âge de 25 ans. Et il est équipé, il a vécu dans une famille qui l'a aimé. Un jeune à la DPJ, à 17 ans, 364 jours, lui, dans le fond, il dit, ben non, on garde ta sécurité, il faut qu'on s'occupe de toi, t'es pas capable. Oui. Puis le lendemain, ben t'as 18 ans, let's go, t'es autonome, t'es un adulte, on s'occupe pas de toi. Donc, on voudrait que les services soient sur volontariat offerts jusqu'au moins à l'âge de 25 ans, un service de suivi. Pas nécessairement un service de garde à l'interne, mais de suivi. Donc, pour trouver un appartement, un emploi, remplir un budget, même juste se préparer à manger ou aller faire l'épicerie.
Ben oui. Aider à la transition, quoi.
Oui, vraiment, la transition, la vie adulte est un gros trou de service là, au niveau surtout de la DPJ.
Et aujourd'hui, Émilie Roy, bon, vous avez 32 ans, vous avez été placée en centre jeunesse à 14 ans. On imagine que c'était des circonstances traumatisantes. Vous allez bien aujourd'hui?
En fait, je vais beaucoup mieux. Ça a pris longtemps avant de faire la paix avec mon passé, mais aujourd'hui, effectivement, je suis dans le communautaire. Je peux pas travailler, ma condition de vie, ma condition physique ne me le permet pas, mais je suis bénévole auprès de plusieurs organismes communautaires, dont la participation à l'EDGEP. J'ai le mouvement Jeune Santé Mentale. J'ai longtemps été auprès du regroupement des organismes communautaires autonomes du Québec.
Très bien. Merci. Donc, je m'excuse, je dois vous couper. J'ai failli faire ça, mais merci d'avoir témoigné à notre antenne. Merci.